Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un événement qui s'est passé hier. C'était une conférence de presse proposée par Frédéric Périssa, qui a été nommé recteur de l'Académie de Poitiers. C'était en octobre dernier. Il présentait hier à la presse donc les priorités de l'Académie dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025. Et aujourd'hui, nous allons en écouter quelques extraits. Voici d'abord les lignes directrices pour la rentrée 2025-2026.
L'année 2025, donc, qui démarre de manière un petit peu particulière pour toutes les administrations, j'allais dire, pour toutes les collectivités aussi, eu égard donc à la structuration du budget de l'État pour 2025. Donc, nous avons eu quelques difficultés à structurer cette rentrée. Nous sommes toujours en attente donc du vote définitif de ce budget. Donc, nous démarrons bien sûr avec les décrets d'avance donc pour faire fonctionner la machine, mais nous attendions donc les arbitrages s'agissant donc des mesures concernant les moyens alloués à l'éducation nationale. Notre objectif, et je l'ai redit à mes équipes, quel que soit l'atterrissage final, donc s'agissant des moyens qui nous seront alloués, c'est de continuer nos efforts sur l'acquisition donc des savoirs fondamentaux. Alors dans l'éducation nationale, tout est fondamental et tous les savoirs sont importants, d'être en capacité de donner le maximum de compétences, de savoir-être, de savoir-faire à nos élèves pour qu'ils puissent ensuite développer des ambitions importantes et avoir les moyens pour atteindre ces ambitions. Mais les savoirs fondamentaux, c'est quand même maîtriser la langue, le français, être en capacité de s'exprimer, par exemple, de lire des textes, et puis ce sont les mathématiques, même si d'aucuns ont le sentiment que grâce aux calculatrices intégrées au téléphone portable, eh bien, on est suffisamment à l'aise. On s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, le raisonnement mathématique, la capacité à résoudre un problème, ça donne une agilité intellectuelle qui est essentielle, là encore, dans sa vie de tous les jours. Et donc, cette maîtrise de ces éléments sont absolument essentiels pour nous. Donc, le souhait de maintenir ces efforts sur ces compétences prioritaires. Et puis, c'est également la volonté d'améliorer donc ces compétences et donc les résultats de nos élèves, à la fois par rapport aux évaluations nationales ou internationales. Nous sommes dans une année 2025 qui est une année de test PISA. Donc, nous allons aussi, dans l'Académie de Poitiers, avoir des établissements et des élèves qui seront sélectionnés pour répondre à cette évaluation. Mais au-delà du résultat aux évaluations, c'est de nous permettre de mieux comprendre pourquoi sur tel niveau on a de bons résultats qui ensuite se délitent, pourquoi sur certains établissements on voit d'année en année des cohortes dont les compétences s'améliorent et d'autres qui sont plus en difficulté. Donc l'objectif que j'ai fixé à mes équipes, c'est que nous travaillons davantage sur la capacité à utiliser l'évaluation dans la réussite scolaire de nos élèves. Donc, c'est pas l'évaluation pour l'évaluation, mais c'est de se servir de cet outil d'évaluation pour réfléchir sur ces pratiques pédagogiques et améliorer l'accompagnement de nos élèves. C'est aussi, troisième point, permettre à nos élèves de réaliser leurs ambitions, en tout cas d'augmenter leurs ambitions. Et c'est donc tout un travail sur l'orientation. Alors, nous sommes au mois de janvier dans le lancement de cet outil Parcoursup qui fait toujours beaucoup parler. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est quelque chose qui sanctionne à un instant le cursus d'un élève? Cette orientation, c'est quelque chose d'essentiel pour accompagner les familles et les élèves dans la recherche, donc, de la meilleure adéquation entre l'ambition, je le répète, d'un élève et puis les filières pour pouvoir le réaliser. Vous savez que Parcoursup, c'est plus de 20 000 orientations possibles, hein, offres de formation possibles, et ce n'est que dans Parcoursup, il y a tout ce qui est hors Parcoursup. Donc, il est important d'accompagner les élèves dans cette orientation pour à la fois mettre en adéquation les compétences dont ils disposent et puis l'ambition qu'ils ont pour ailleurs. Et puis, c'est aussi lutter contre les stéréotypes de l'orientation, c'est-à-dire que les filles ne feraient pas d'études scientifiques, n'iraient pas dans la recherche, n'iraient pas dans le numérique, et à contrario, les garçons n'iraient pas sur les métiers sanitaires et sociaux. Donc, il y a tout ce travail-là à faire sur l'orientation et que je souhaite, là encore, que nos équipes pédagogiques puissent s'emparer davantage de tout cela. Et pour faire tout cela, eh bien, ça nécessite de former nos personnels, que ce soit les professeurs, que ce soit également les équipes de direction, pour accompagner, je le répète, cette réflexion à la fois sur nos méthodologies d'enseignement au travers de l'outil de l'évaluation, donc avoir cette réflexion, et puis aussi travailler sur la problématique de l'orientation, sur la problématique du genre, pour faire progresser nos élèves dans leurs ambitions et dans leurs résultats.
La stratégie du recteur est ensuite d'identifier les besoins de chacun grâce aux évaluations nationales pour mieux répondre aux besoins de chaque élève et les faire progresser. Dans la Vienne, les résultats du début de l'année scolaire 2024 montrent qu'ils sont toujours au-dessus de la moyenne nationale en CP, en français et en maths. En CE1 et CM1, ils sont en progression dans tous les domaines par rapport à la rentrée 2023, mais il y a encore des fragilités en lecture, voire en écriture, et ça reste en dessous de la moyenne nationale en maths. En 6e, là aussi, c'est globalement en progression par rapport à 2023, notamment en géométrie, mais encore en dessous de la moyenne nationale, surtout sur la fluidité de lecture. Alors, des ambitions, mais pas forcément les moyens en face. On y revient juste après avoir découvert Flora Hibbard. Elle est originaire de Londres, mais elle est basée à Paris depuis plusieurs années. Elle crée un univers poétique et folk, et son premier album studio, Swirl, vient de paraître. En voici un extrait, Baby. I seldom think of you. Except at Crater Lake, I took my shirt off and went wading in. Baby, you were horrified. Keep your shame, I don't want to wear it. It doesn't feel good. It doesn't feel right. Up at Crater Lake in the heavy. Swimming in the sunlight.
shining like the green stone upon the shore. I have nothing more to tell you.
Supérieur à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
C'est toi en plus.
Ah ouais?
Dans cette émission, on revient sur la conférence de presse qui s'est tenue hier, tenue par Frédéric Périssa, donc recteur d'Académie. L'annonce phare de cette présentation, donc du recteur de son équipe hier, c'est la baisse du nombre d'enseignants due à une baisse démographique continue, et c'est ça qui est annoncé pour la rentrée 2025.
Vous le rappelez, pour certains, un certain nombre d'entre vous, j'avais indiqué qu'il n'y a pas de lien direct entre évolution démographique et allocation des moyens, bah parce qu'il y a une baisse démographique que l'on doit baisser les moyens. Dans les faits, c'est ce qui va se passer pour l'Académie de Poitiers, notamment dans le premier degré. Le premier degré constatera pour cette rentrée 2025 une baisse importante des effectifs, puisque nous allons perdre à nouveau plus de 2500 élèves dans le premier degré. Cela fait une baisse de 2% qui comparativement au national est plus élevée, puisque on prévoit moins 1,5 au niveau du national. Et surtout, ce qui est important, c'est que sur 10 ans, nous avons perdu plus de 18% d'élèves, ce qui représente plus de 26 000 écoliers. Donc, vous voyez que c'est une tendance qui est très forte, qui est prononcée et qui fait que nous aurons à nouveau un nombre d'élèves bien moindre, mais qu'en regard la mesure budgétaire qui concerne le premier degré est de moins de 30 emplois. Donc moins de 30 emplois, j'allais dire comparé à la baisse démographique. Alors, je ne veux pas être trop technique dans le descriptif, mais si nous avions conservé le même niveau d'encadrement de 2024 par rapport à 2025, on était potentiellement sur plus d'une centaine de suppressions d'emplois en relation avec cette baisse démographique. Donc, la ministre d'État, et elle a indiqué, le Premier ministre l'a confirmé, donc dans les moins 4000 emplois qui étaient initialement prévus, il y en avait plus de 3000, c'est 3500 qui étaient prévus pour le premier degré. Donc cette mesure est suspendue, et ce qui permet de limiter donc cette réduction d'emplois pour l'Académie de Poitiers a une baisse de 30, ce qui doit nous permettre d'une part de continuer à rééquilibrer l'allocation des moyens entre les territoires ruraux et les territoires qui sont classés en éducation prioritaire, pour continuer donc les dédoublements en grande section et en CP, de poursuivre le plafonnement donc du nombre d'élèves à 24 par classe. Et puis, ce que j'ai souhaité, et je vous l'ai indiqué dans la stratégie pour l'Académie, c'est accroître les moyens de remplacement pour que, d'une part, on remplace mieux les absences dans les établissements, mais surtout que l'on se dégage des moyens de remplacement pour permettre aux équipes pédagogiques d'aller en formation. Ce que je souhaite, c'est que l'on accentue les formations d'équipes pédagogiques pour que une école puisse réfléchir à son projet d'école, réfléchisse à l'évolution de ses méthodologies d'enseignement par rapport notamment donc aux évaluations qui sont faites. C'est-à-dire que il est bien de demander aux enseignants de réfléchir sur leurs pratiques, de se servir de l'outil d'évaluation, mais il faut qu'on leur donne du temps pour qu'ils aient la capacité donc collectivement de se former dans le cadre des plans de formation, notamment je parlais des savoirs fondamentaux donc avec le plan mathématiques et le plan français, mais que plus largement ils puissent réfléchir également sur leurs pratiques pédagogiques. Donc j'ai demandé à ce que dans chaque département le DAZN travaille à faire leur carte scolaire en prenant en considération donc l'amélioration de ces brigades de remplacement. Et puis, sur un autre volet, toujours sur cet accompagnement des équipes pédagogiques, c'est dans le cadre donc du développement de l'école inclusive, pour que l'on ait là encore des renforts formés spécialement à ces problématiques des enfants ayant des besoins particuliers, pour qu'ils soient en capacité de venir appuyer une école, une classe dans laquelle un enfant à besoin particulier va être affecté dans le cadre des prescriptions donc, de la MDPH et que l'on puisse anticiper son arrivée ou le cas échéant, et ça peut arriver lorsque l'on sent que l'intégration d'un élève se fait difficilement ou qu'il y a des difficultés qui apparaissent, et bien qu'on puisse affecter temporairement des moyens supplémentaires avec ces personnels formés pour qu'ils puissent adapter l'accompagnement de l'élève en difficulté ou de l'enseignant en difficulté par rapport à une situation ponctuelle liée donc à cette inclusion d'élèves dans l'établissement. Avec la répartition donc sur les quatre départements et un effort particulier qui est mis sur la Charente-Maritime, puisque si tous les départements perdent des élèves, on fait un effort sur la Charente-Maritime, donc je diminuerai que de moins 4 le nombre d'emplois sur la Charente-Maritime pour qu'on améliore le taux d'encadrement dans ce département, est un peu en retrait par rapport aux trois autres départements. Ce sera donc moins 6 pour la Charente et moins 10 pour les départements donc, de la Vienne et des Deux-Sèvres.
Alors pour préciser, en primaire dans la Vienne, on a à peu près 30 200 élèves avec une projection de moins 600 pour la rentrée. Les chiffres dans le deuxième degré pour le département, c'est 15 600 collégiens, moins 300 l'année prochaine, presque 7 900 lycéens, et a priori ce serait plutôt en hausse, 2 600 lycéens en lycée professionnel, donc avant c'était lycée général et technologique, là aussi petite hausse d'une trentaine d'élèves projetés. Et puis en STS et CPGE, 1 600 étudiants, petite baisse d'une cinquantaine. Donc STS, c'est les sections de techniciens supérieurs, et CPGE, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Voici un petit peu les chiffres globaux dans la Vienne. Donc 27 800 dans le second degré élèves et étudiants attendus à la rentrée 2025, soit environ 300 de moins que cette année. Et d'où donc un rééquilibrage sur toute l'académie qui va se faire avec moins 85 emplois sur les quatre départements, des emplois qui seront surtout enlevés au niveau des collèges. Il va toutefois y avoir une réallocation de moyens sur les groupes de besoins ou groupes de niveau en 6e et 5e pour les français et les mathématiques. Le but, c'est aussi de renforcer l'accompagnement en 4e et 3e, d'accompagner les évolutions démographiques, notamment en lycée pro, et de consolider les remplacements, notamment les remplacements de longue durée. Juste avant votre rendez-vous cinéma, je vous propose de découvrir Sloane Lucas, c'est une rappeuse montréalaise. Voici le titre « Je pense qu'on va perdre ».
Je voulais faire de grandes choses, je me suis pris des grosses claques. J'ai eu la chance du débutant et la rançon sonneur. Ouvert une coupe de porte, compter une coupe de but, péter une coupe de coche. On a sauté des clôtures, des barrières, on a protégé nos culs, nos arrières. On a compris assez tard qu'on peut pas tout se permettre. On n'a rien rendu à César, il peut aller se faire mettre. On s'est pas fait prier pour fêter nos victoires. On a appris à parier avant même d'y croire. Pour faire ce qui nous plaît, pas attendu le jour de paye. On a goûté le goulot et le fond de la bouteille. On a pris des L, on a pris des guess. On a demandé de l'aide, on a reçu des threats. On a tracé des lignes, trouvé des cercles et des raisons de continuer. On s'en est donné si saine. J'sais pas, mais j'pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. On prend une chance, on sait jamais, y'a peut-être des chances quand même. Y'aura pas de grand soir, mais il faut se battre quand même. Si tu veux pas, t'es déjà mort et c'est plate quand même. J'sais pas, mais j'pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. J'sais pas, mais j'pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. J'reste loin des milieux, mais j'sais de quel côté j'me tiens. J'fais de mon mieux pour pas oublier d'où je viens. J'ai deux, trois amis qui sont pas loin d'être à la rue. C'est les premiers à me dire que le son leur a plu. J'essaye de rester forte pour ceux qui m'entourent. Et c'est les mêmes qui me portent quand c'est mon tour. On prend pas beaucoup de photos, on a presque pas de preuves. Nous on le sait ce qu'il faut, ceux qui savent peuvent. Nos ennemis dévorent tout comme Kaonashi. Sont plus forts que nous mais pas leur talent d'Achille. On n'a jamais combattu à armes égales à la mémoire des vaincus. Pour faire les pailles, je sais que la route est longue et barbare. Et je sais que même à l'ombre, on doit boire à la source qui nous lie, à la dignité humaine. Dites à nos morts que leur colère on ne peut finir d'exhumer. J'sais pas, mais j'pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. On prend une chance, on sait jamais, y'a peut-être des chances quand même. Y'aura pas de grand soir, mais il faut se battre quand même. Si tu peux pas, t'es déjà mort et c'est plate quand même. J'sais pas, mais j'pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. J'sais pas, mais j'pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même.
Ça, c'est la radio chaude et urbaine qui ne renie pas son implantation dans la Terre.
Sans doute. C'est d'ailleurs la seule explication possible.
Tu sais.
Et on retrouve votre rendez-vous cinéma avec le cinéma Le Dietrich et Erwan qui est service civique dans ce cinéma. Erwan, aujourd'hui, tu nous parles de Julie Sauté, un film qui dénonce.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est un film flamand qui sort au Dietrich aujourd'hui. Donc Julie Sauté, comme tu l'as dit, c'est le premier film de Leonardo van Digel. C'est un film très intimiste qui se déroule dans le milieu sportif, du tennis plus précisément. On y traite d'un sujet qui est très actuel, à savoir le silence face au harcèlement sexuel. La Julie du titre donc, est une jeune femme avec un avenir très prometteur dans le tennis qui voit son entraîneur être suspendu du jour au lendemain pour cause d'enquête sur des comportements qu'il aurait eu avec des joueuses au sein du club. Pourtant, si tout le monde est encouragé à parler et que les langues se délient petit à petit, Julie, de son côté, garde le silence. Mais alors, que sait-elle ? Qu'a-t-elle vu ? Qu'a-t-elle subi même ? Eh bien, c'est justement tout le sujet du film, film qui prend vraiment le temps de poser son décor, ses personnages, d'analyser les relations qu'entretiennent les jeunes du club entre eux. Vous savez, on dit souvent « Ah, ce film, c'est un film à atmosphère » ou « C'est un film à ambiance, c'est plutôt lancinant ». Eh bien, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce film, une ambiance particulière, un rythme assez lent, posé à contre-temps d'un cinéma plus actuel, qui est souvent plus rapide et qui cherche à tout prix à ne pas endormir le spectateur, quitte à se perdre dans sa narration. Là, pas du tout, le réalisateur fait le pari de croire à la capacité de son spectateur à se laisser prendre dans cette histoire de non-dit, de on-dit même, de démêler le vrai, le faux, d'appréhender la situation d'un point de vue adolescent, voire même de jeune adulte, en examinant les réactions des adultes, des parents, à ce genre de situation qui, on le sait, échoue souvent à prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe. Je veux aussi vous préciser que le film est tourné en 35 mm, donc sur pellicule et non avec des caméras numériques. C'est un choix du réalisateur qui donne une vraie identité particulière au film. Un grain qu'on ne retrouve que rarement de nos jours et qui participe à l'atmosphère chaude et tendue du film. Pour ceux qui ne le savent pas, tourner en pellicule coûte extrêmement cher, d'abord à cause du matériel utilisé qui se fait de plus en plus rare depuis la transition au numérique dans les années 2000, mais c'est surtout la pellicule qu'on utilise qui coûte le plus cher et qui est très précieuse, d'abord en termes de conservation, mais aussi car le nombre de prises par scène sont limitées si on ne veut pas faire exploser le budget de notre film. Donc je ne vous fais pas un dessin, autant vous dire que pour un premier film et avec une majorité d'acteurs non professionnels, tout doit être calculé à la précision pour pouvoir assumer financièrement et artistiquement ce choix. Donc ne serait-ce que pour encourager ce parti pris, je vous conseille vivement de vous jeter sur Julie Se Tait, que vous pourrez voir à partir d'aujourd'hui et tout le mois de février au Dietrich. Mais aussi notez bien que ce vendredi 31 janvier à 20h30, ce sera la deuxième séance de votre nouveau rendez-vous mensuel, la séance Sale Gosse. Alors après les Goonies en début de mois, place cette fois à War Games de John Badham, film des années 80 sur un duo d'adolescents qui, croyant jouer à un nouveau jeu vidéo, se branche accidentellement sur le réseau informatique du département de la Défense. S'ensuit, vous vous en doutez, une série de quiproquos qui vont emmener ces jeunes ados dans une aventure bien plus grande qu'ils n'auraient pu imaginer. C'est avec Matthew Broderick, avant qu'il ne joue le mythique Ferris Bueller quelques années plus tard. C'est un film très amusant pour parents et enfants, et surtout garanti sans école le lendemain. À savoir que ce film permet d'introduire le festival des Mycéliades, festival de science-fiction qui aura lieu pour la première fois à Poitiers jusqu'au 15 février, et que nous aurons le plaisir d'accueillir au cinéma Le Dietrich, mais aussi en partenariat avec la médiathèque de Ligugé. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur nos sites internet respectifs ou directement sur le site mycéliades.com pour plus d'informations, mais ne vous inquiétez pas, on vous en reparlera la semaine prochaine.
Merci beaucoup Erwan, effectivement on retrouve ces rendez-vous cinéma tous les mercredis et tout de suite c'est l'heure de vos autres idées sorties avec l'agenda. Personne n'y comprend rien, c'est à Civray à 14h, donc au cinéma Ciné Malice, une démocratie et une dictature, une campagne présidentielle et de l'argent noir, une guerre et des morts. Personne n'y comprend rien, se rassure Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi, un film qui sera aussi disponible bientôt au Dietrich. Rencontre avec Anna Ayanoglu, donc c'est ce soir à 19h au Bibliocafé, la maison de la poésie de Poitiers, invite la poétesse Anna Ayanoglu pour une soirée lecture-rencontre, une occasion de découvrir cette poésie qui interroge nos liens humains et le sentiment d'appartenance. L'événement est donc accueilli au Bibliocafé. L'accès est libre et gratuit. C'est à 19h. Et puis, on termine la soirée avec la jam du Wagon Bar. C'est à 20h à la Locomotive, boulevard du Grand Serre. Une soirée d'improvisation musicale en public ouverte à toutes et tous de 20h à 2h. Ça se passe tous les mercredis et là, favoriser l'improvisation musicale et l'entraide entre artistes. Chacun, chacune peut monter sur scène. L'entrée est libre. Sur Pulsar, retrouve à 21h l'indépendance et à 23h Sono Kino. Merci à Angélique pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Zaza Fournier et ce titre Fièvre humaine. Bonne écoute, à demain.
On courait sur les quais avides et impatients. On parodiait la mort en bousculant les gens. Et on se serrait fort quand on claquait des dents. Et si l'un d'entre nous refusait de sortir, planqué dans sa chambre le cœur qui se déchire, on se donnait rendez-vous, on prenait de quoi rire, et on se bloquait avec lui. On se nourrissait de fièvre humaine, toute la vie nous regardait. Est-ce que j'ai choisi la mienne? Toi qui restais sur la scène, de nos 17 ans qui dansaient, de nuit blanche en matin blême. Tu te nourrissais de fièvre humaine. On buvait jusqu'au bout pour protéger l'honneur. On se racontait pas tout, y avait de la pudeur. On fumait déjà trop. Ça nous calmait l'humeur. Et si l'un d'entre nous était un peu cruel, on faisait les malins, on riait de plus belle. Celui qui souffrait, il remontait en selle.
peu semblant.
Qui t'a fait un peu semblant.
On se nourrissait de fièvre humaine.
Tu sais.